les philosophes publics.
Alors bleu, c'est quoi ? Religion.
Là, c'est on a retourné le problème
faire
en fait.
À l'extérieur de la classe, ce qu'on fait à l'intérieur de la classe, c'est-à-dire aider à penser et penser avec les autres.
Bon, alors non, on a le droit, on a le droit de retourner.
C'est
hein.
C'est sûr.
Rouge, société.
Poser des questions, mais c'est peut-être de créer du désir.
Parce que les questions, on se les pose ensemble, on se les pose de mieux.
C'est compliqué aujourd'hui de trouver la perspective commune.
Philosophie. Le collectif Les Philosophes Publics a pris naissance au sein d'un groupe d'amis, enseignants de philosophie, attentifs à la vie commune.
Il est né d'un sentiment, sans aucun doute partagé, d'être confronté à des événements révélant une crise grave de la société.
Crise des représentations,
des institutions
et des rapports au monde. Ce collectif a décidé d'aller partout où le dialogue est possible, d'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer,
de discuter et concevoir, de porter voix et témoigner de tout ce qui se dit et fait
pour une société plus joyeuse,
plus éclairée,
plus solidaire.
Philosophe public.
Bonjour, nous sommes autour de la table aujourd'hui pour parler de la mémoire, plus précisément à partir d'un texte de Platon, pour réfléchir sur ce que c'est qu'une mémoire vivante et sur la différence entre la vraie mémoire et une fausse mémoire qui serait pure remémoration. Et pour ça, Platon nous aide beaucoup. Alors, on va d'abord présenter ceux qui sont autour de la table. Donc, il y a Céline.
Bonjour.
Denis.
Bonjour à vous.
Et Louisa. Oui, je disais que Platon nous aide beaucoup parce qu'il a inventé un mythe dans son dialogue qui s'appelle le Phèdre. Qui est très intéressant puisqu'il il raconte comment aurait été inventée l'écriture et bizarrement, nous y reviendrons, alors que Platon est quelqu'un qui a écrit des dialogues, à travers ce mythe, il fait une critique de l'écriture. Hein, voilà. Donc on va réfléchir sur ça. Alors donc il raconte comment un dieu ou un demi-dieu, ou une divinité en tout cas, qui s'appelle Thoth, aurait inventé en même temps que le nombre, le calcul et un certain nombre de jeux, dont le jeu de Trictrac. Il aurait aussi inventé l'écriture et il le présente au dieu roi Thammuz d'Égypte. Et il est tout content, hein, il se dit oh là, j'ai vraiment inventé quelque chose de merveilleux qui va aider la connaissance, qui va permettre d'accéder plus facilement au savoir à travers l'écriture. Et en réalité, le roi Thammuz lui dit que pas du tout, qu'en fait c'est quelque chose qui ne va pas du tout aider la connaissance humaine. Et il dit, donc je cite rapidement le texte, cet art produira l'oubli dans l'âme de ceux qui l'auront appris, parce qu'ils cesseront d'exercer leur mémoire, mettant en effet leur confiance dans l'écrit. C'est du dehors grâce à des empreintes étrangères et non du dedans grâce à eux-mêmes qu'ils feront acte de remémoration. Ce n'est donc pas de la mémoire, mais de la remémoration que tu as trouvé le remède. Donc c'est sur ça que je voudrais dire quelques mots, sur cet étonnement hein, du fait que l'écriture n'aide pas le savoir mais au contraire provoque l'oubli et ça permet de bien comprendre la différence entre ce que c'est qu'une vraie mémoire, une mémoire vivante et ce que c'est que simplement une mémoire se rapporte à quelque chose qui est extérieur à la pensée. En fait ce que nous montre Platon c'est que la vraie mémoire est la même ne peut pas être distinguée de la pensée vivante, de la pensée rationnelle. C'est-à-dire le terme qui est intéressant ici, l'opposition qui est intéressante, c'est celle du dedans et du dehors. La vraie mémoire est une mémoire où je reconnais en moi. Quelque chose où lorsque je sais, ce savoir n'est pas quelque chose qui est extérieur à moi, mais c'est un savoir qui est actualisé parce que c'est moi qui pense le savoir. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la mémoire est une mémoire qui est une activité, qui n'est pas une pure passivité, n'est pas simplement l'enregistrement de quelque chose de passé, mais c'est une mémoire qui est une actualisation d'un savoir. C'est-à-dire que la vraie mémoire est donc la pensée rationnelle. C'est une pensée où c'est moi qui pense ou je pense, et ce n'est pas simplement le souvenir de quelque chose qui a été pensé avant moi et que je me contente de répéter. On peut mettre ça, si vous voulez, pour peut-être éclairer, en rapport avec la fameuse phrase de Montaigne, je préfère une tête bien faite qu'une tête bien pleine, hein, c'est-à-dire que le vrai savoir n'est pas simplement le savoir de quelque chose qui m'est extérieur et que je me contente donc de répéter. Ce n'est donc pas la référence au passé qui fait de quelque chose de passé qui a donc une valeur dans la mémoire, mais c'est le fait que cette mémoire est réactualisée, c'est-à-dire que c'est le présent, l'actualisation de la chose qui fait la valeur de la mémoire. D'une certaine manière, c'est le présent, hein, qui fait la valeur de la mémoire et non pas la référence à un passé. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Bon, il y a beaucoup de pistes à creuser, on va peut-être passer à une autre piste.
Peut-être pas une autre piste, mais peut-être que c'est difficile de comprendre exactement ce que veut dire Platon sans faire référence à ce qu'il appelle la réminiscence, et qui va servir justement à expliquer ce savoir qui passe par un souvenir qui n'est pas, comme l'a dit Louisa, un souvenir acquis ou empirique, ou qui provient de l'expérience. Sinon, dit Platon, en un certain sens, on pourrait sans cesse véhiculer du préjugé, de l'erreur, puisque nous ferions référence à des choses établies dans l'histoire dont on n'est pas sûr qu'elle soit vraie ou pas vraie. Donc le but, c'est pas tant d'expliquer la réminiscence, mais peut-être de se demander ce que nous dit la réminiscence sur la mémoire. Donc la réminiscence pour Platon, c'est cette idée que j'ai à l'intérieur de moi, donc plutôt du côté de la raison ou de l'âme ou de la mémoire, un savoir qui effectivement ne provient pas du temps humain, du temps des hommes, mais qui provient d'un temps d'un au-delà du temps. Que Platon loge dans un monde qu'il appelle le monde des idées, qui serait un monde que les âmes auraient contemplé, toutes les âmes humaines, avant, hein, de traverser ce qu'il appelle le fleuve du Léthé, qui signifie le fleuve de l'oubli, pour s'incarner dans un corps. Donc cette théorie de la réminiscence invite à penser le sujet humain, les sujets que nous sommes, comme à la fois en capacité d'une connaissance capable de mettre en question les connaissances empiriques, et en même temps marquée irrémédiablement par le poids du temps ou le poids de l'incarnation, qui est aussi la disparition à venir, et qui est marquée par un oubli. Mais c'est donc un oubli qui n'est pas absolu, hein, puisqu'on peut retrouver ces idées par la réminiscence. Donc concrètement, ça veut dire que pour Platon, effectivement, connaître passe par la mémoire, et cette mémoire-là n'a rien d'un souvenir enregistré, c'est une activité de la pensée. Hein, il la décrit souvent métaphoriquement comme le fait de prendre ses ailes, comme le fait de prendre du recul par rapport à l'immédiateté d'un sensible ou d'un monde dans lequel on est jeté. Donc la mémoire apparaît ici, avec tout ce qu'a déjà dit Louisa, mais comme la possibilité de décrocher d'un présent auquel nous serions accolés. Nous pouvons penser autrement que simplement ce présent dans lequel on est nécessairement immergé. Voilà, donc ça devient un lieu critique
Hein, cette mémoire, un lieu de décrochage par rapport aussi à nos enseignements, par rapport à notre histoire sensible. Et ce décrochage, pour Platon, c'est la trace d'une humanité, puisque nous pouvons chercher ensemble des définitions, des principes, comme en mathématiques ou en géométrie, qui sont communs aux hommes.
Juste un petit mot pour aller dans ton sens, Céline. Il y a quelque chose d'assez étonnant pour quand on se plonge dans l'idée de cette idée de réminiscence. Ça a l'air vraiment farfelu comme idée, mais ce qui est pourtant très très parlant pour nous, c'est que quand on connaît quelque chose, à l'air de nous dire Platon, on se reconnaît dans ce qu'on connaît, comme dans quelque chose d'immémorial. C'est-à-dire, ce qui semble paradoxal, c'est que la réminiscence est une forme de mémoire, mais c'est une mémoire de l'immémorial, de quelque chose qui est une vérité éternelle, qui est toujours là. Mais pourtant, c'est de la mémoire. Et c'est de la mémoire, pourquoi ? Parce que nous sommes, en tant qu'humains, soumis au temps, à la finitude, et que forcément, pour nous, ce savoir qui est éternel prend la forme de quelque chose qui a été avant et qui n'est pas de l'éternité. Je veux dire par là que si nous étions des divinités, nous n'aurions pas de mémoire. Et que si pour nous le savoir est une mémoire, c'est parce que nous sommes mortels. C'est un peu paradoxal.
Oui, c'est une conception de la mémoire qui, pour nous, est très décalée par rapport à une approche qui serait simplement psychologique ou même à l'idée d'une mémoire collective, hein, puisque là, on a ce qui nous permet, ce qui fait accès finalement à quelque chose qui est d'un autre ordre. Et effectivement, qui échappe au temps. Il y a aussi dans ce mythe, donc, qui est un récit, qui est présenté comme un mythe, avec cette structure où on a non pas un dialogue entre deux divinités, mais on a une offrande et puis un jugement qui est porté sur cette offrande. Finalement, un questionnement sur ce qu'il peut y avoir d'artificiel dans la mémoire aussi, lorsqu'elle est entendue justement comme écriture. Or là, il y a quand même tout un aspect du texte qui est aussi une discussion avec la sophistique ou les sophistes qui s'organisent d'une façon assez complexe, parce que les sophistes, ce sont justement ceux qui enseignent à produire des discours, ceux qui enseignent à bien parler, ceux qui, depuis un poète, hein, qui s'appelle Simonide, qui était justement à la fois un poète professionnel, mais aussi quelqu'un qui avait une énorme mémoire, parce que il savait comment produire, comment il avait des techniques finalement pour retenir un certain nombre de choses. Or, ces sophistes qui sont souvent mis en scène, hein, dans les dialogues de Platon auxquels ils s'opposent, parce qu'ils se présentent comme des gens qui peuvent apparaître comme savants. Hein, et dans la fin du passage que tu as lu tout à l'heure, hein, Louisa, c'est bien de ça dont il s'agissait, c'est-à-dire, hein, ceux qui sont doxosophoi, hein, c'est-à-dire ceux qui apparaissent comme savants, ceux qui apparaissent comme étant dépositaires d'un savoir. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que ce qui est complexe, c'est que dans ce texte, finalement, c'est comme si on avait un argumentaire des sophistes qui était retourné contre eux, parce que des sophistes comme Gorgias vont aussi dire l'essentiel n'est pas dans l'art de la mémoire, mais l'essentiel du discours est dans une saisie de l'occasion. Un discours doit être porté finalement par un auteur en situation. Il doit pouvoir être soutenu, défendu. Et justement, dans le texte de Platon, on retrouve cette idée-là qu'un discours écrit, finalement, ça serait un discours qui serait sans père, un discours qui serait orphelin, un discours qui ne pourrait pas être défendu, qui ne pourrait pas être adressé, ou on ne sait pas à qui il s'adresse. Or, dans cette situation oratoire, il y a justement quelque chose de vivant. Alors, comment Platon le retourne ? D'une certaine façon, en mettant en évidence que le discours sophistique ou la pratique du discours sophistique, malgré tout, ne permet pas d'accéder à une vérité, et que c'est justement une mémoire intérieure qui permet d'y accéder. Il y a aussi un autre aspect, il me semble, aussi dans ce que tu avais dit du paradoxe, hein, de comment cette critique des arts de la mémoire qu'on trouve chez les sophistes ou dans la pratique de la sophistique et qu'on trouvera ensuite dans la rhétorique, etc. Comment cette critique de l'écriture peut-elle être produite par quelqu'un qui a autant écrit? Alors c'est vrai que cette critique de l'écriture, elle est mise dans la bouche du philosophe qui, par excellence, n'écrit pas, à savoir Socrate, hein, qui n'a jamais rien écrit et qui est un philosophe de la parole, de la pensée vivante. Mais en même temps, est-ce que ce discours ne se retourne pas contre Platon, ou comment peut-il justifier finalement d'écrire autant? Une façon de dénouer de ce paradoxe, c'est de remarquer que dans la fin, cette opposition entre deux mémoires, une mémoire vivante, comme tu as dit, hein, et une mémoire qui serait finalement extérieure et écrite, vient se recomposer avec une opposition entre une écriture qui est du dehors et une écriture qui se fait à l'intérieur de l'âme. Platon dit, voilà, lorsque un discours est lu, il y a aussi quelque chose qui s'écrit dans l'âme, et finalement c'est ce qui est donné à penser par l'écrit, dès lors que c'est une semence vivante et non pas un texte mort, dès lors que c'est vivifié par la pensée qui s'efforce de le lire, qui permet justement d'enfanter un mouvement.
On pourrait faire le lien peut-être entre ces idées de Platon et un texte d'un auteur contemporain, Michel Benassayag, dans un livre qui s'appelle « Cerveau augmenté, homme diminué », qui fait la critique de l'illusion transhumaniste qui est très à la mode, hein, de l'idée d'augmenter le cerveau humain comme quelque chose, un peu comme dans la même naïveté que Tut qui croit trouver la solution du savoir en inventant l'écriture. On croit trouver la solution de toutes les défaillances humaines avec l'idée d'un cerveau augmenté. Donc c'est là où est la ressemblance, hein, étrangement. Donc je lis juste un petit passage. Ainsi, la recherche actuelle en neurosciences qui aspire à construire des cerveaux augmentés aboutit à deux apories différentes sur la mémoire. D'une part, l'impossibilité de l'oubli implique l'impossibilité de la hiérarchisation des souvenirs, condition de l'émergence de la singularité de la personne. Nous deviendrions dès lors des personnes augmentées, des funesses mémorieux, en référence à la fameuse nouvelle de Borges où il y a un personnage atteint d'hypermnésie qui ne peut rien oublier mais qui ne peut du coup pas penser. Donc c'est intéressant puisque ça montre bien que qu'est-ce qui fait qu'une mémoire est humaine. Voilà, il y aurait de quoi réfléchir, de quoi faire une autre émission, hein, qu'est-ce que c'est qu'une mémoire humaine, mais où on voit que la mémoire humaine n'a rien à voir avec l'augmentation artificielle qui pourrait y avoir de la mémoire, puisque la mémoire humaine, elle est faite de défaillances, puisque la mémoire, elle est incarnée dans un corps et que notre mémoire n'est pas la mémoire d'un cerveau qui pourrait être augmenté, mais c'est la mémoire d'un corps, d'un rapport au monde, d'un rapport aux autres qui rend absolument illusoire à cette idée transhumaniste.
Oui, et ce que nous invite aussi à penser le texte de Benassayag et aussi celui de Platon sur l'écriture et la critique qu'il en fait, c'est au fond que la mémoire humaine n'est pas transférable. Ou pour le dire peut-être plus justement, si on la transfère, alors elle est dénaturée. Et l'enjeu, c'est de penser ce qui est perdu, hein, dès lors qu'il y a transfert, dans peut-être un contresens, puisque si on externalise les mémoires dans du matériel, on a l'impression de les rendre infaillibles, intemporelles, alors que au fond, cette externalisation et une perte de la dimension qualitative de la mémoire humaine qui n'est pas un lieu ni un espace, hein, comme le dit si bien Platon, après on pourrait encore développer, mais c'est une activité, c'est un rapport au monde, c'est un rapport à soi. Il me semble aussi juste pour indiquer comme ça que le livre Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, c'est le moment où le livre s'enflamme, où il disparaît, hein, c'est le point d'auto-inflammation, et c'est là où il montre que ce qu'on juge comme une solidité absolue, nous serions protégés grâce à des mémoires du passé, c'est en fait quelque chose qui peut se détruire d'un coup et de façon hyper brutale. Et donc à la fin du livre, nous avons ces hommes livres qui ont appris les livres à l'intérieur. Le narrateur ou Bradbury dit bien sûr qu'il y a forcément de l'oubli, que c'est pas une restitution mécanique de contenu, mais pourtant nous sommes là dans la transmission, dans voilà. Donc les hommes livres incarnent ou représentent cette mémoire vivante que nous avons en charge.
Ce sont des hommes donc qui ont appris par cœur les livres, hein, et qui voilà.
Et aussi, moi, je pense que par rapport à cette idée d'un cerveau augmenté ou d'une mémoire qui serait augmentée, ça nous ramène finalement au texte de Tutt qui présente justement son invention comme un remède. Mais ici, si je dis remède, en fait, ça traduit un terme grec qui s'appelle pharmacon et qui a cette ambivalence, puisque le pharmacon, c'est à la fois le remède, mais en même temps le poison. Et justement, on peut finalement se interroger les illusions qu'il pourrait y avoir lorsque on nous présente des remèdes ou des aides-mémoires. Donc peut-être qu'il faudrait se méfier des aides-mémoires.
Et peut-être qu'aujourd'hui, ça aussi, on pourrait le questionner, je crois qu'on le fera dans une autre émission, mais est-ce que le numérique ne prolonge pas cette illusion, finalement, d'une mémoire absolue et d'une mémoire parfaite? Et est-ce que cette perfection n'est pas poison, hein, plutôt que d'être effectivement pensée du passé?
Vraiment un remède.
Merci à vous.
Merci. Au revoir.
Les philosophes publics.
Là c'est, on a retourné le problème, en fait, en effet. Là,
c'est-à-dire aider à penser et penser avec les autres.
C'est quoi ce faut-il-là? Est-ce que...
C'est circuler une parole,
c'est sûr.
Vous posez des questions, mais c'est peut-être de créer du désir.
Parce que les questions, on se les pose ensemble, on se les pose de mieux.
C'est compliqué aujourd'hui de trouver la perspective commune.
Le collectif Les Philosophes Publics a pris naissance au sein d'un groupe d'amis, enseignants de philosophie, attentifs à la vie commune.
Ce collectif a décidé d'aller partout
où le dialogue est possible. D'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer.
De discuter et concevoir, de porter voix et témoigner de tout ce qui se dit et fait
pour une société plus joyeuse,
plus éclairée,
plus solidaire.
Philosophe public.
Vous pouvez nous retrouver sur Facebook
et sur le site de Radio Grenouille.